BFM. Les grands débats du mercredi. Olivier Mazerolle.
Le nucléaire est-il un danger, au contraire une solution pour l'écologie, avec Bruno Combi qui est auteur d'un livre Nucléaire, avenir de l'écologie, et qui est président de l'association des écologistes pour le nucléaire, Frédéric Marié qui est chargé du nucléaire à Greenpeace France, et Isabelle Bourgeois, spécialiste de l'Allemagne, chargée de recherche au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que le débat sur le nucléaire rebondit dans ce pays. Alors, l'importance de la question, elle est tout simplement fixée par un rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui dépend de l'ONU. Et ces experts nous indiquent que d'ici à 2100, la température du globe va monter de 2 à 4 degrés et que les mers vont monter de 18 à 58 cm. Tout ça à cause des gaz à effet de serre. Alors, la discussion rebondit parce que le nucléaire est sans doute l'énergie qui renvoie, l'énergie très importante ou très implantée aujourd'hui, qui envoie le moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, très rapidement, je voudrais avoir déjà votre avis, puis après, évidemment, on va entrer dans le détail, mais est-ce que le nucléaire est la réponse au danger des gaz à effet de serre ? Bruno Combi.
Eh bien, Olivier, je pense que le nucléaire fait partie de la réponse qui est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays du monde, et notamment les pays qui peuvent accéder à cette technologie nucléaire, qui sont les pays les plus développés, les plus riches. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on doit faire face à un immense danger, qui est le réchauffement climatique dont vous parliez. C'est tout de même plus de 20 milliards de tonnes de CO2 par an que nous rejetons dans l'atmosphère chaque année. Plus de la moitié de ce CO2 n'est pas réabsorbé par les écosystèmes et s'accumule. Et nous avons là une source d'énergie, comme vous le soulignez, qui n'émet pratiquement pas de gaz à effet de serre et qui est donc une grande partie de la solution. Notre association, tout de même, est très favorable, en premier lieu, et en cela, je serais d'accord avec Greenpeace, aux économies d'énergie, dans toute la mesure du possible, également favorable au développement d'un certain nombre d'énergies.
On va venir sur tout ça, mais ça ne suffira pas,
et le nucléaire est la seule source massivement disponible d'énergie propre.
Frédéric Marié, Greenpeace.
Alors, pour nous, bien sûr, le nucléaire, c'est avant tout une menace. Alors, on parle beaucoup, bien sûr, des changements climatiques, mais le nucléaire, c'est en lui-même aussi une menace majeure, globale, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble de la planète. On l'a vu par exemple avec Tchernobyl, ça ne s'est pas concentré sur 30 km, mais bien sur l'ensemble du continent européen et même au-delà. Et c'est aussi une menace irréversible, un petit peu comme les changements climatiques. Aujourd'hui, les zones contaminées autour de Tchernobyl, on ne peut toujours pas y vivre. Et les changements climatiques, c'est pareil, quand il y aura 2 à 3 degrés en plus, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc pour nous, c'est des menaces du même ordre de grandeur. Et cette menace, elle se concrétise par le problème des déchets nucléaires, par le problème du risque, j'en ai parlé de l'accident, mais aussi par des problèmes extrêmement importants si on commence à raisonner en développement de l'énergie nucléaire au niveau mondial, par le problème de la prolifération et de la faisabilité à partir de cette technologie de produire des armes de destruction massive. Ça, c'est un point extrêmement clé quand on parle du nucléaire. Alors concernant l'aspect énergétique, le nucléaire, contrairement à ce qui m'a été dit, c'est une énergie mineure. C'est un risque majeur, mais une énergie mineure. Et aujourd'hui, elle ne représente que 2% de la consommation d'énergie mondiale. Donc actuellement, c'est très peu. Et si on voulait que cette technologie dangereuse, je le rappelle encore, ait un vrai rôle dans cette lutte contre les changements climatiques, il faudrait la multiplier de manière extrêmement importante, avec les risques que ça implique. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une technologie qui a des ressources limitées, c'est notamment l'uranium. Et l'uranium aujourd'hui, les réserves connues par rapport à l'utilisation actuelle qui en est faite, c'est des réserves pour 60 ans, c'est l'équivalent du gaz. Donc alors, c'est loin d'être une énergie infinie.
D'accord. Alors maintenant, je vais me tourner vers Isabelle Bourgeois qui est en ligne avec nous. Bon, la Commission européenne vient dans un rapport sur l'énergie de dire que, bon, évidemment, il y avait des sources d'énergie alternatives, mais que dans l'immédiat, le nucléaire était une des techniques les plus connues en Union européenne et donc qui rejetait le moins de gaz carbonique dans l'atmosphère. Isabelle Bourgeois, est-ce que véritablement en Allemagne, le débat sur le nucléaire est reparti? Le gouvernement Schröder avait décidé de supprimer tout le fonctionnement de toutes les centrales nucléaires au niveau de l'année 2020. Est-ce que le débat est reparti en Allemagne?
Oui, le débat est reparti, moins sur la place publique que parmi les experts et les différents membres du gouvernement, voire entre les différents ministères. Il est reparti déjà depuis 2004, à partir du moment où on s'est vraiment aperçu de la dimension de la dépendance énergétique de l'Allemagne. Et dans ce contexte, il n'est plus tenable de tenir un abandon total du nucléaire pour deux raisons. D'abord, la dépendance énergétique. Vous savez que la seule ressource énergétique domestique de l'Allemagne, c'est le lignite. Or, le lignite est hautement problématique malgré tous les progrès technologiques qu'on a fait depuis. Et le fait
ça produit du gaz carbonique, celui-là. Oui.
Oui, mais on a pu les réduire, les émissions, considérablement. Donc, le lignite est une énergie relativement propre. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'émissions. Et puis, par ailleurs, le nucléaire, bon, l'avantage d'être propre. Et puis, surtout, l'approvisionnement en uranium, même s'il faut l'importer, est quand même stable. Il n'y a pas de risque politique, comme on l'a vu pour le gaz, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, le débat commence à être relancé. Et parallèlement, les renouvelables coûtent extrêmement cher et sont responsables de la formidable hausse des prix de l'électricité qu'on a pu constater ces derniers temps en Allemagne. Donc, pour toutes ces raisons, un prix de l'électricité qui fait le double du prix français, pour la dépendance énergétique et puis pour l'application du futur protocole de Kyoto, on se demande s'il ne serait pas bon de prolonger un petit peu la durée de vie des centrales, sans faire machine arrière, bien sûr, sur l'abandon, puisque c'est inscrit dans la coalition.
Alors, je rappelle simplement que la production d'électricité, que le nucléaire produit à peu près 30% de l'électricité qui est consommée dans l'ensemble de l'Union européenne, mais que la France est un cas très atypique, puisqu'on approche les 80% de production de l'électricité consommée en France, produite donc par le nucléaire. Alors parlons des dangers du nucléaire, on connaît ses capacités de production, les dangers. D'abord, les accidents. Alors Bruno Combi, dans votre livre quand même, Tchernobyl, vous dites pas que c'était pas une catastrophe, vous êtes même scandalisé par ce qui s'est passé, mais vous dites qu'il faut quand même ramener ça à de justes proportions.
Oui, tout à fait. Tchernobyl était un accident très grave. Il y a tout de même eu un certain nombre de victimes, y compris des victimes civiles, et une augmentation des cancers de la thyroïde sur place, localement, pas en France. Et donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas un accident. Mais ce n'est tout de même pas du tout le type de réacteur que nous avons en France. Et Tchernobyl, on a franchi les lignes jaunes et rouges partout. On avait tout faux. Les réacteurs étaient mal conçus, ils étaient instables. Il n'y avait pas d'enceinte de confinement et le jour où l'accident est arrivé, ils faisaient un test qui était interdit par les procédures de conduite du réacteur. Et pour pouvoir faire ce test, ils ont débranché tous les systèmes de sécurité qui autrement auraient empêché de le faire. Donc quand on fait ça, bien sûr, on récolte un accident grave en guise de résultat. Simplement en France, nos réacteurs n'ont
pas... Mais vous avez l'air de dire, en dehors de tout ça, que même dans le cas de Tchernobyl, qui est la pire des catastrophes nucléaires que l'on ait connues jusqu'à présent, finalement, les conséquences ne sont pas aussi dramatiques qu'on a bien voulu le dire.
Oui, certains chiffres qu'on a pu lire dans la presse ont parfois été assez exagérés. Et si on compare, par exemple, avec la même quantité d'électricité fabriquée avec du charbon, eh bien, il y a encore aujourd'hui des milliers de morts chaque année, notamment en Chine, mais pas seulement, un peu dans les différents pays producteurs de charbon, à cause des coups de grisou dans les mines de charbon. Et ça, c'est régulièrement des milliers de personnes. Il y en a quasiment tous les jours, toutes les semaines. C'est rare même qu'on en fasse des dépêches de presse. Alors que dans le nucléaire, dès qu'il y a même ne serait-ce qu'une personne qui va être accidentée, on en parle et ça fait le tour de la planète immédiatement, parce qu'en réalité, il y en a très peu.
Frédéric Marié, Greenpeace.
Encore une fois, ce qui est très important dans le nucléaire, c'est cet aspect d'irréversibilité. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans les chiffres de Tchernobyl, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan de Tchernobyl n'est toujours pas clair. Il y a un vrai tabou autour de ça. Il y a une vraie main de fer mise par l'Agence internationale sur l'énergie atomique. Ce qu'il faut savoir quand même quand on parle des retombées de Tchernobyl, c'est qu'il y a un accord qui date de 1952 entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a pour but premier de développer l'énergie nucléaire et qui impose à l'OMS, avant de donner tout résultat concernant la santé liée aux installations nucléaires, aux catastrophes nucléaires, d'avoir l'aval de cette agence. C'est un peu comme si en France, on demandait à l'agence de développement de l'automobile son aval avant de donner les chiffres des accidents de la route. Alors il y a un vrai problème de démocratie, de transparence, notamment sur les résultats de la catastrophe de Tchernobyl. Nous, on a publié un rapport pour les 20 ans qui était l'année dernière, en 2006, qui était très catastrophique. Il y a des chiffres qui nous viennent de scientifiques de l'Académie des sciences russes où ils parlent, selon lui, déjà de 200 000 morts liées à cet accident. Et il y a encore aujourd'hui des gens, 20 ans après, qui développent des cancers suite à cet accident, puisqu'ils vivent avec cette radioactivité. Alors, qui existe encore. Il y a aussi des mutations, et c'est des choses qui se transmettent aussi par les gènes. Donc on voit bien que ce n'est pas un goût de grisou. Effectivement, c'est un vrai problème aussi. Il y a des morts sur le moment, mais là, il y a un aspect irréversible qui est extrêmement grave et qui est possible en France.
Bruno
on
Pommier,
parle beaucoup d'une technologie
oui,
soviétique.
Moi, je voudrais juste faire une petite remarque. C'est qu'effectivement, nous pouvons avoir des accidents aussi en France, mais les conséquences n'auraient absolument rien à voir avec celles de Tchernobyl. Et on a un exemple historique qui est intéressant à analyser de ce point de vue. C'est l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, qui est intéressant parce que c'est exactement le même type de réacteur que ceux que nous avons en France. C'était en 1979. Il s'est passé un peu la même chose qu'à Tchernobyl. Le réacteur, on a perdu le contrôle.
Comme quoi,
il a fondu.
Possible.
Comme quoi, c'est possible. Mais les conséquences n'ont rien à voir, puisqu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a quasiment pas eu du tout de rejet dans l'environnement. Donc, il n'y a pas de conséquences pour la santé publique.
Il y a eu de la chance.
C'est pas du tout la même chose.
Il y a quand même eu 100 000 personnes évacuées. Le réacteur a fait exploser, puisqu'il y a une boule d'hydrogène qui s'est formée. On a frôlé la catastrophe. Et il y a eu un facteur chance.
On poursuit. Attendez, il faut qu'on marque une pause. On poursuit dans un instant, puis on va rejoindre Isabelle Bourgeois. Je voudrais lui demander sur quoi s'appuient les antinucléaires en Allemagne.
Une heure pour mieux comprendre l'économie de la grande consommation, c'est LSA Conso, le rendez-vous conso de BFM. Chaque mercredi de 23h à minuit avec Henri Loiseau, directeur de la rédaction du magazine LSA, expert, analyste, sociologue, décrypte les comportements du consommateur et vous font découvrir les toutes dernières innovations françaises ou internationales. LSA Conso, le rendez-vous conso de BFM, chaque mercredi de 23h à minuit. BFM, la radio de l'écho.
En direct des marchés, Gaëtan Mélin.
Le CAC 40 toujours en baisse, mais une baisse moins importante que ce matin. Moins 0,8%, 5 542,70 avec côté devise une monnaie européenne qui a perdu un peu de terrain face au billet vert. 1,3185 $. Le Brent, lui, se négocie à Londres, toujours en haut, 60,81 $. Le baril, à l'instant, est dans l'actualité des entreprises. À noter qu'Atos Origine plonge dans le rouge. La société de services informatiques a dévoilé pour 2006 une perte nette de 264 millions d'euros contre un bénéfice l'année précédente de plus de 235 millions d'euros. Atos Origine a particulièrement souffert au Royaume-Uni et en Italie. Bénéfice record en revanche pour Bouygues. Le groupe de BTP Communication a dévoilé pour 2006 un bénéfice net en progression de 50%. Il intègre les résultats liés aux sociétés cédées, 109 millions d'euros pour TPS et 99 millions d'euros pour Bouygues Télécom Caraïbes. Ainsi, hors ces résultats, eh bien, le bénéfice net récurrent progresse tout de même de 26%. Tout va bien également pour Publicis. Le premier groupe publicitaire français a réalisé un bénéfice net par du groupe en progression de près de 15%. Publicis prévoit de réaliser en 2007 en Europe et aux États-Unis un rythme de croissance combiné comparable à celui de 2006, tandis que la performance des marchés émergents devrait être encore améliorée.
Un point sur les marchés boursiers. Tous les quarts d'heure, c'est uniquement sur BFM. BFM, les grands débats du mercredi, Olivier Mazerolle.
Le nucléaire, danger aux solutions écologiques, avec Bruno Combi, auteur de Nucléaire, avenir de l'écologie, président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, Frédéric Marillet, chargé du nucléaire à Greenpeace France, et Isabelle Bourgeois, spécialiste de l'Allemagne. Isabelle Bourgeois, je voudrais demander, quel est le principal argument des antinucléaires? De quoi parle-t-il? Des risques d'accident, des déchets, de la prolifération?
Il parle, c'est un petit peu tout ça à la fois. Mais ce qui est mis en avant, bien évidemment, comme en France, ce sont les risques qui s'établissent sur l'expérience de Tchernobyl, qui a été nettement plus catastrophique en Allemagne qu'en France, puisque, rappelez-vous, le fameux nuage radioactif s'est arrêté le long du Rhin et n'a pas franchi ce fameux Rhin, en tout cas dans un premier temps en France. Et en Allemagne, ça a été un affolement général. Mais Tchernobyl, derrière, se profile tout un ensemble de mutations de la société. Les anciens 68ards, c'est un peu l'origine des mouvements alternatifs qui plus tard donneront les Verts, le parti politique. Vous avez donc des idéologies anticapitalistes. Vous avez un changement de style de vie anticonsumériste, plus individuel. Et puis, tout cela a été porté par un fonds culturel très ancien qui est la notion de développement durable. Cette notion n'a pas été inventée à Rio de Janeiro. Elle a été inventée dans la sylviculture prussienne du XVIIe siècle. Et tout simplement parce que quand on plante un arbre, ma foi, on plante pour 200 ans au-delà.
Donc, alors, ça, je voudrais vous demander maintenant si, par exemple, on me faisait remarquer à l'instant, et c'est très juste, que la communauté européenne, l'Union européenne, a obligé les Bulgares à fermer des centrales nucléaires qui n'étaient pas sûres pour que la Bulgarie puisse entrer dans l'Union européenne. On voit les pays baltes qui s'organisent pour essayer de rénover leur parc nucléaire. Est-ce que ça rassure les Allemands ou pas ?
Oui, cela les rassure. Et par ailleurs, dans l'opinion publique, vous savez, vous avez toujours des thèmes comme ça qui sont en tête de l'agenda. Actuellement, ce qui préoccupe les Allemands, ce sont beaucoup plus les questions économiques et sociales que les questions de changement climatique, contrairement à la France, ou les questions des énergies renouvelables ou pas. L'opinion ne se préoccupe plus guère de cela, puisqu'elle a pris confiance dans le fait que les centrales considérées comme dangereuses ont été arrêtées. Je voudrais rebondir sur un point du débat précédent. On traite, en parlant de Tchernobyl, on traite le nucléaire un petit peu comme on traite les catastrophes aériennes. C'est-à-dire que on se focalise sur un gros accident extrêmement spectaculaire et on en oublie que, au quotidien, les centrales sont quand même dans l'ensemble relativement sûres.
Alors, Frédéric Marillet de Greenpeace n'est pas tout à fait d'accord avec vous.
Imagine.
Allez-y.
Si vous voulez, c'est sûr. Et heureusement, il y a eu pour l'instant une catastrophe majeure. On ne peut que s'en réjouir. Mais encore une fois, la différence, c'est que ce n'est pas une catastrophe de 86. C'est une catastrophe encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui vivent dans des territoires contaminés, qui vont être contaminés pendant des siècles. Il y a encore des gens qui développent des cancers maintenant. Il y a encore des enfants qui naissent avec des malformations. C'est ça la catastrophe nucléaire.
Alors,
c'est très important. Et juste pour rappeler aux gens, il y a quand même eu 800 000 personnes, des jeunes qui ont été amenés par l'armée, des civils, qui sont venus sur ce réacteur qui est en train de brûler pour essayer de réparer et de diminuer les dégâts et les conséquences. Si un jour il y a un accident nucléaire en France, où est-ce qu'on trouvera ces 800 000 personnes ? Parce que ça joue un rôle majeur pour que cet accident ait des conséquences moins importantes que ce que ça aurait pu avoir. Et encore une fois, c'était aussi dans une zone peu peuplée. Si on avait un accident nucléaire sur nos gens, ça voudrait dire éventuellement évacuer Paris, la région parisienne, etc.
Et Isabelle Bourgeois, un mot et puis ensuite...
J'aimerais simplement quand même rappeler que le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas non plus en matière de houille, comme on l'a connu, et l'Allemagne est payée pour ça, puisque des coups de grisou, il y en a eu beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est autre chose. La fameuse maladie du mineur, les poumons encrassés par la houille, la poussière de houille rassemblée au fil des années dans le fond de la mine. Cette maladie, elle est tout aussi durable. Il y a des conséquences générationnelles également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le long de l'humanité, le risque zéro n'existe pas.
D'accord.
Il y a une pondération à effectuer entre le besoin économique, la nécessité d'avoir une énergie fiable à un prix relativement finançable et parallèlement, aussi un respect de l'environnement. Maintenant, c'est un équilibre très délicat à trouver.
Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle d'un autre risque du nucléaire, ce sont les déchets. Alors, moi, j'ai lu votre livre, Bruno Combi. Alors, vous dites, pour les déchets hautement radioactifs, la durée de vie est de 100 000 ans. Bon, ben, on n'en verra pas la fin. Alors, maintenant, si on les retraite et qu'on récupère le plutonium, on diminue à 10 000 ans. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Et enfin, si on retraite ces déchets avec extraction du plutonium, de l'américium et du neptunium, alors là, pour moi, c'est du chinois, mais enfin, peu importe, là, on tombe à 1000 ans. Mais j'en verrai pas la fin non plus. Hein. Donc, c'est quand même très, très important comme durée de vie.
Oui, mais je crois qu'il faut relativiser un petit peu. D'abord, un des grands avantages du nucléaire, c'est ce qu'on appelle le facteur 1 million. C'est que 1 gramme d'uranium produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole ou de charbon. 1 gramme pour une tonne, ça nous fait un facteur 1 million. C'est pas rien, ça. C'est pas un facteur 2 ou un facteur 4, c'est un facteur 1 million. Et la quantité, donc là où aujourd'hui on utilise des dizaines de milliers de puits de pétrole qui polluent les océans de la planète entière, eh bien on peut remplacer ça par quelques mines d'uranium, un petit nombre, parce qu'il faut une beaucoup plus petite quantité de matière première d'un facteur 1 million. Et la quantité de déchets qui est produite, le déchet, ce n'est jamais que la matière première qui s'est transformée. Donc cette quantité de déchets est également dans des ordres de grandeur qui sont du million de fois plus faibles. Et parce que ce sont des quantités qui sont si petites, eh bien, au lieu de les rejeter dans l'environnement, puisque dans le cas du pétrole, du charbon et du gaz, qui produisent tout de même 85% de l'énergie dans le monde, aujourd'hui on est complètement dépendant des énergies fossiles qui sont en voie d'épuisement, eh bien c'est la poubelle, qui est la poubelle, c'est l'atmosphère. Donc on ne peut pas faire ça à l'air qu'on respire. On est en train de changer la composition chimique de l'air, de l'atmosphère que nous respirons sur l'ensemble de la planète. Là non plus, il n'y a pas de frontières. Donc, dans le cas du nucléaire, parce qu'il y a des toutes petites quantités de déchets, on peut se permettre de les confiner. Et c'est ce qui est fait depuis le début. Alors, bien sûr, M. Marié nous expliquera que ce confinement n'est pas total, et il aura raison, mais il est quand même confiné à 99 et quelques pourcents. Et donc, ces déchets, ils ne sont pas sous forme gazeuse, ils sont faciles à confiner parce que ce sont pour l'essentiel des déchets qui sont sous forme solide. Ils sont retraités parce qu'on peut en récupérer 97%, puisque dans le combustible qui sort d'un réacteur nucléaire, on peut expliquer à nos auditeurs qu'il y a 96% d'uranium qui n'a pas brûlé. Donc, c'est ce qu'on fait à l'usine de La Hague. On récupère ces 96% d'uranium. Il y a 1% de plutonium que certains considèrent comme un dangereux déchet, mais qui en réalité est aussi une ressource extraordinaire, puisque le plutonium contient encore plus d'énergie à quantité égale que l'uranium. Donc ça aussi, en fait, il y a 1% qui est aussi une ressource pour l'avenir, et il reste 3% de cocktails de substances plus ou moins radioactives qui sont non solides et qui sont vitrifiées et qui ne sont pas remis dans la biosphère. Donc on voit bien qu'il n'y a quasiment aucun impact sur la biosphère parce qu'il y a très peu de déchets d'une part et parce que peu de déchets qui existent sont quasiment pas remis dans la biosphère.
Frédéric Marié, Greenpeace.
Oui, alors quand on dit qu'on ne met pas les déchets dans la biosphère, effectivement, pour l'instant, ces déchets sont en grande partie stockés à l'usine de La Hague. Mais là, il y a un problème. C'est que l'usine de La Hague, elle est faite pour fonctionner 50 ans. Donc on va arriver dans les prochaines années, dans la décennie qui vient, à la fin de cette installation. Or, ces déchets, ils sont dangereux, ils vont l'être pendant... Alors, je ne sais pas comment a fait ses calculs, comment M. Combi a fait ses calculs, mais pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et alors là, forcément, aujourd'hui, ce qu'on propose, ce que l'industrie nucléaire propose, ce n'est pas comme les CO2 de le rejeter dans l'atmosphère, mais c'est de faire un grand trou et de mettre ça dans les couches géologiques en attendant que cette radioactivité diminue et en espérant, et en espérant que la radioactivité, qui remontera de manière... inévitable, ne soit pas trop forte et ne contaminera pas les régions où on aura stocké ces déchets. Donc c'est ça aujourd'hui la seule solution qui en plus n'est pas encore totalement techniquement et scientifiquement validée qu'on nous propose pour gérer ces déchets. C'est vrai qu'en termes de quantité ça n'a rien à voir avec par exemple les déchets ménagers, mais c'est vrai aussi qu'en termes de risque et de durée de danger, c'est quelque chose qui sont effectivement encore une fois d'une ampleur extrêmement importante.
Bruno Combi, un mot?
Oui, on a un exemple intéressant qui est le réacteur naturel d'Oklo au Gabon qui a fonctionné il y a 2 milliards d'années. Et il a fonctionné pendant des millions d'années et les déchets qui ont été produits dans la nature à l'époque sont restés sur place. Ça n'a même pas migré de 3 mètres en 2 milliards d'années alors qu'il n'y avait aucun confinement de prévu et c'était de la radioactivité.
Un réacteur naturel.
Oui, oui. Il y a beaucoup d'uranium à Oklo et la réaction, comme dans nos réacteurs, s'est mise en route toute seule dans le sol et a donc produit les mêmes déchets que ceux que nous produisons dans nos centrales aujourd'hui. Et sans aucun confinement, c'est resté au fond de la rivière, là où c'était. C'est resté sur place, ça n'a pas migré de 3 mètres.
Et ça n'a pas été retraité.
Voilà. Et alors, donc, on voit bien qu'il faut relativiser les affirmations catastrophistes.
D'accord. Alors, on marque une pause et on poursuit dans un instant.
17h-23h, le grand journal de BFM, 6 heures d'informations économiques non-stop.
6 heures non-stop.
Les sujets chauds qui ont fait l'actu de la journée, les perspectives, les tendances, les mouvements, le grand journal de BFM. 17h-23h, le grand journal de BFM, tout ce qui est essentiel et indispensable. La clôture des principales places boursières, les témoignages, les réussites. 17h-23h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir. Uniquement sur BFM. BFM, la radio de l'écho.
Zoom sur les marchés avec Gaëtan Mélin.
Et le CAC 40 toujours en baisse à moins 1%, 5 535,21. Notez toutefois que cette baisse est moins marquée qu'en début de séance. Côté devise, la monnaie européenne vaut à l'instant 1,3181. Le Brent, lui, se négocie à Londres en ce moment à 60,93 le baril. Beaucoup de publications aujourd'hui et globalement, les bons chiffres laissent insensibles les marchés financiers. En témoigne la baisse de Bouygues, moins 0,3%, 50 42,63 €. Et pourtant, le groupe de BTP Communications a dévoilé une progression de 50% de son bénéfice net par du groupe en 2006. Même chose hein, pour Vinci qui a dévoilé de belles choses. Le titre est en baisse de 1,5% à 104,90 €. Il en va de même pour Eiffage hein, qui recule à l'instant de 1,3% à 76,10 €. En revanche, Publicis a les faveurs des investisseurs aujourd'hui. Publicis qui a dévoilé lui aussi hein, de très belles choses. Son bénéfice net a progressé de 15% en 2006. Publicis se dit également confiant pour l'année à venir. Publicis qui est en hausse à l'instant de 1,4% à 33,90 €. En revanche, Altran Technologies a sanctionné après le lancement d'un profit warning. Le groupe a indiqué que sa marge opérationnelle serait inférieure à celle de 2005. Le titre Altran Technologies est en repli de 6,4% à 6,40 €. Et puis à noter EADS hein, qui fait actuellement du surplace 25,45 €, alors qu'Airbus présente en ce moment son plan Powerate. Selon des sources citées par Reuters, l'avionneur devrait annoncer 10 000 suppressions d'emplois. Selon toujours des rumeurs, 4 sites de production pourraient être fermés. Bien sûr, Hélène Cornet reviendra en détail hein, sur ces informations dans le journal de l'économie.
Cotation, valeur, variation en temps réel, 36,67 €, le numéro boursier de BFM, 34 centimes la minute.
L'essentiel de l'info.
Une soixantaine de militaires et du matériel spécialisé vont être envoyés sur l'île de la Réunion. Michèle Alliomari, la ministre de la Défense, veut venir en aide à la population après le passage du cyclone Gamed. L'alerte rouge a été levée ce matin. Les autorités demandent tout de même aux habitants de rester très prudents. Ce n'était pas arrivé officiellement depuis 25 ans. Washington pourrait s'asseoir à la table des négociations avec l'Iran et la Syrie pour un débat consacré à l'Irak. Un débat qui aurait lieu lors d'une conférence fin mars. C'est la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice qui l'a promis hier. Nouvelle incursion israélienne ce matin à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Une centaine de véhicules blindés a encerclé la ville. À Jénine, 3 Palestiniens ont été tués ce matin dans une opération de l'armée israélienne. Ils étaient membres du groupe radical djihad islamique. Le décret est publié au journal officiel aujourd'hui. Les messages sanitaires dans les publicités alimentaires sont désormais obligatoires. Il s'agit de sensibiliser les consommateurs au risque pour la santé d'une mauvaise nutrition. La France compte près de 20 millions de personnes en surpoids. Deux tableaux de Picasso ont été volés cette nuit. Le vol a eu lieu au domicile parisien de la petite fille du peintre. La valeur globale des deux tableaux est évaluée à 50 millions d'euros. Dernier jour aujourd'hui pour échanger vos Pascal. Ces billets de 500 francs n'auront plus de valeur monétaire par la suite. Plus de 2 millions de billets seraient toujours sous les matelas ou dans les tiroirs des Français, ce qui représente tout de même près de 200 millions d'euros.
BFM 11h30. Le journal de l'économie.
Le ministre chinois appelle à la stabilité financière. Les marchés financiers sont encore en baisse aujourd'hui. Le recul se poursuit après la forte secousse hier. De lourdes pertes provoquées par les craintes d'une bulle boursière en Asie, provoquées également par la crainte d'un ralentissement économique aux États-Unis. Ce matin à Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé sur un repli de 2,8%. Le CAC 40 à Paris perd actuellement 1% à 5535 points. Airbus dévoile actuellement au comité européen du groupe les détails de son plan de restructuration. Aujourd'hui, il a été approuvé hier par les actionnaires de EADS, un plan qui prévoit 10 000 suppressions d'emplois et la fermeture de certains sites industriels. Ségolène Royal veut remettre à plat l'ensemble de la gestion d'Airbus si elle est élue. La candidate PS à la présidentielle doit rencontrer la chancelière Angela Merkel sur le sujet la semaine prochaine. Les parlementaires socialistes demandent au gouvernement de les convoquer au plus vite et qu'il clarifie sa position sur le plan Power 8. Pour le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, il est urgent que les élus volent au secours de EADS.
Nous allons nous réunir le 7 pour élire un président de l'Assemblée nationale pour remplacer Jean-Louis Debré. Ce serait quand même indécent qu'on se réunisse là toute une demi-journée pour élire un président de l'Assemblée qui va d'ailleurs pas avoir grand-chose à faire et ne pas travailler sur des questions si importantes d'actualité comme par exemple Airbus. Dans un État démocratique, à qui voulez-vous qu'on s'adresse ? On ne va pas s'adresser qu'à l'entreprise, EADS et Airbus, qui d'ailleurs fait son plan dans un cadre extrêmement contraint. On dit que le site de Saint-Nazaire sera sans doute fermé, et puis après, qu'est-ce qui va se passer ? Quel serait le site suivant qui va tomber ? On dit que Mayholt va être vendu, mais qui va l'acheter ? Enfin bref, je pense qu'il y a à la fois une colère qui monte chez les salariés, et chez les responsables locaux, régionaux, c'est aussi l'avenir des territoires qui est en cause.
Jean-Marc Ayrault, au micro de Mathieu Jolivet. Nouveau rebondissement dans le feuilleton Endesa. Cette fois, c'est Enel qui s'invite au capital de l'électricien espagnol. L'Italien a officiellement annoncé hier une prise de participation de près de 10% dans le capital de son concurrent. Il pourrait monter à 25% prochainement. C'est un nouvel obstacle à l'offre publique d'achat de l'Allemand E.ON. Vinci se renforce sur les autoroutes françaises. Le groupe de BTP est monté hier au capital de sa filiale Cofiroute. Prix de la transaction 4,5 milliards d'euros. Vinci qui a prévu 12 000 embauches cette année pour faire face à la hausse de l'activité. Le groupe présentait hier ses résultats avec un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros pour 2006 en hausse de 31%. C'est largement supérieur aux objectifs. De bons résultats également pour Eiffage. Le groupe de BTP voit son bénéfice net grimper de presque 25% pour 2006 à 377 millions d'euros. Eiffage reste très optimiste pour cette année et souhaite jouer un rôle majeur sur les marchés européens du secteur. Une grosse commande pour le groupe Bourbon. La société de services maritimes va commander 46 navires auprès de chantiers nichinois et nigérians. Estimation de la commande 560 millions d'euros. Des navires qui vont lui permettre de renforcer sa division offshore. Redressement fiscal pour AOL France. Le fisc lui réclame 34 millions d'euros. Le Trésor public estime que les abonnements français auraient dû être soumis à la TVA française et non à la TVA luxembourgeoise, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la filiale luxembourgeoise, effectivement, d'AOL, qui facture les abonnés français depuis 2003. Chômage quasi stable en janvier. Le ministère de l'Emploi n'a enregistré que 1200 chômeurs supplémentaires pour ce début d'année. Le taux de chômage reste fixe, lui, à 8,6% de la population active. Le mois de janvier est traditionnellement marqué par une hausse de demandeurs d'emploi en raison des fins de contrat en décembre. Et puis, dans la zone euro, eh bien, le taux de chômage est tombé à 7,4%. L'inflation a été revue à la baisse à 1,8%, selon une deuxième estimation d'Eurostat publiée à l'instant.
BFM, un journal de l'économie, toutes les demi-heures.
BFM, il est 11h34, tout de suite la rediffusion du 17 janvier des grands débats avec Olivier Mazerolles.
BFM, les grands débats du mercredi, Olivier Mazerolles.
Le nucléaire, danger aux solutions écologiques avec Bruno Combi, qui est auteur de Nucléaire, avenir de l'écologie, président de l'association des écologistes pour le nucléaire, Frédéric Marillet, chargé du nucléaire à Greenpeace France, et Isabelle Bourgeois, spécialiste de l'Allemagne au centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Isabelle Bourgeois, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a quelques années, on voyait assez fréquemment des manifestations antinucléaires et puis aussi des trains qui transportaient des matières fissiles qui étaient stoppés. On voit plus trop ça. Ça veut dire qu'il y a une démobilisation des militants antinucléaires ?
Non, pas du tout. Il y a eu une pause à un moment donné, puisque dans le cadre du contrat signant l'arrêt du nucléaire, les contrats liant l'Allemagne avec La Hague et Sellafield ont été interrompus pendant un petit moment. Donc, il n'y a pas eu de manifestation, forcément, faute de train. Mais les transports ont repris et vous avez toujours quelques irréductibles qui handicapent le passage du train vers le lieu de stockage intermédiaire de Goale.
Alors, tout à l'heure, Frédéric Marillet parlait d'une grosse crainte de Greenpeace et qui peut-être est fondée et qui peut-être agite aussi quand même les esprits allemands pour des raisons liées à l'histoire et à la Seconde Guerre mondiale. C'est le risque de prolifération du civil nucléaire vers le militaire.
Oui, ben, ce risque existe forcément, mais encore une fois, il faut essayer de gérer. Mais cela dit, c'est un autre dossier. Il ne s'agit pas de politique énergétique tout court. Là, il s'agit de
relations géopolitiques. Oui, mais enfin, on peut difficilement dissocier les deux choses. Parce que si on le voit avec l'Iran aujourd'hui, qui dit vouloir ne faire que du nucléaire civil, mais qui attaque une filière qui permettrait, le cas échéant, d'avoir la bombe atomique.
Oui, bien sûr. L'Allemagne aussi pourrait, le cas échéant, fabriquer une bombe atomique. Mais c'est un risque inhérent à toute technologie. Les abus possibles, c'est l'apprenti sorcier, hein, c'est le risque inhérent à toute technologie nouvelle. Mais là, il s'agit de politique, il s'agit de stratégie géopolitique, encore une fois. Alors, de quoi parlons-nous ? Parlons-nous du nucléaire civil, c'est-à-dire de l'approvisionnement en énergie et en électricité, ou parlons-nous des risques de prolifération ? Ça n'est pas du tout la même chose. Cela interfère, bien évidemment, dans les craintes liées au nucléaire, mais le problème du monde énergétique, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre de Kyoto, dans le cadre du réchauffement climatique, etc., c'est plutôt la sécurité de l'approvisionnement et la fiabilité et des prix abordable. C'est ça l'important. Mais je voudrais revenir sur le retraitement des déchets, parce que là, l'Allemagne et la France sont un petit peu incohérentes. L'Allemagne particulièrement, donc elle prône l'abandon du nucléaire, c'est signé. Bien, par contre, la question du retraitement n'a jamais été envisagée.
Oui, parce qu'il y a toujours 17 centrales qui fonctionnent en Allemagne aujourd'hui,
oui, il faut voilà, quand même le rappeler. Mais l'Allemagne a refilé la patate chaude à la France, si on veut, en signant avec la Hague. Tant mieux pour la Hague, effectivement, ça a dopé les activités dans la région.
Et les pollutions.
Par contre, oui, mais bon, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro. Par contre, la question du stockage définitif n'a jamais été résolue non plus. Selon le syndrome bien connu du NIMBY, not in my backyard, donc pas chez moi, mais chez le voisin de préférence, le cœur du problème du nucléaire, en réalité, c'est moins tous les risques, etc., bien qu'ils soient très importants aussi, il ne faut pas les oublier.
Ah oui.
Mais le cœur du problème, c'est que faire de ces déchets qui existent. Ouais. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut envisager une solution. C'est la vraie. C'est le vrai problème.
Alors, Frédéric Marié.
C'est là qu'est l'incohérence.
Oui, c'est facile à dire, sauf qu'il n'y a pas de solution. C'est bien ça le problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour séparer le débat sur le nucléaire civil et militaire. C'est les mêmes technologies. Aujourd'hui, ce que développe l'Iran, la centrifugation pour enrichir l'uranium, c'est technologies qu'ils ont piquées à une société, une entreprise publique qui appartient aux Allemands, aux Hollandais, et à l'Angleterre, qui est un Urenco, qui fait effectivement de l'enrichissement en Europe. C'est la même technologie. On nous parle de retraitement, M. Combi nous dit, c'est très bien, on extrait du plutonium, c'est une ressource formidable. Mais avec 8 kilos de plutonium, on fait une bombe atomique. C'est ça le problème. Alors on veut quoi? On veut mettre du plutonium dans tous les pays? Aujourd'hui, il y a déjà 40 pays qui sont en capacité de faire une bombe atomique. On ne peut pas dire que ce n'est pas important. Il est très clair, et même pour l'ONU, le rapport de Kofi Annan du millénaire a clairement mis en avant deux problèmes majeurs pour le monde à régler dans les prochaines décennies, c'est le changement climatique et la question de la prolifération. Ce sont deux enjeux majeurs pour le monde, et bien sûr, ils se relient au niveau de l'énergie.
Bruno Combi.
La prolifération, c'est un vrai risque, et je crois que dans mon livre, je distingue bien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, au contraire de...
Et comment vous faites pour distinguer les mêmes
Frédéric Marié,
les mêmes matières?
Non, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Quand on a un outil pour faire quelque chose, on peut toujours s'en servir d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et l'outil qui aujourd'hui tue le plus dans le monde, c'est la machette. Ce n'est pas le nucléaire, c'est la machette. Et est-ce qu'on demande l'interdiction des couteaux dans le monde entier sous prétexte qu'avec une machette, on peut couper la tête de quelqu'un? Non, ce qu'il faut, c'est faire un bon usage des technologies qui existent et de faire en sorte de limiter et de freiner au maximum les usages dangereux de ces technologies. Maintenant, bien sûr, il faut limiter la prolifération. Et justement, pour cela, le meilleur outil que nous avons, et ça revient aux bases historiques du traité de non-prolifération nucléaire de Eisenhower avec le programme Atoms for Peace dans les années 1950, le meilleur outil, c'est de proposer aux pays qui le souhaitent un usage sûr et propre du nucléaire civil, en échange de quoi ils s'engagent fermement à ne jamais utiliser le nucléaire militaire.
Oui, mais enfin, on voit bien avec
un certain nombre de sanctions qui sont possible s'ils ne le font pas. Et quand un pays dispose d'un certain
nombre
de réacteurs nucléaires...
Quand on voit que les Américains aujourd'hui disent aux Indiens « on va vous aider » alors que les Indiens ne se sont jamais conformés aux règles internationales, on peut se demander si, après, la politique ne reprend pas ses droits.
Attendez, les Indiens n'ont pas signé le traité de non-prolifération
nucléaire. Oui, mais ils
ne
sont pas punis.
Donc ils ont le droit et nous non plus, nous ne l'avons pas
signé
et nous avons la bombe.
Ils ne sont pas punis par la communauté internationale.
Mais ils n'ont pas été punis puisqu'ils n'avaient pas signé, ils n'ont pas franchi, ils n'ont pas fait d'erreur.
Alors, Isabelle Bourgeois, attendez, parce que vous avez soulevé un autre question qui est fondamentale, évidemment, c'est qu'on a besoin d'énergie et que si on ne demande plus au nucléaire de produire l'électricité qu'elle nous permet d'avoir, vers quoi nous nous tournons? Alors, est-ce que les Allemands, de ce côté-là, ont bien réussi leur début de conversion? Est-ce que les autres énergies utilisables...
Alors, en Allemagne, je crois qu'il y a un chiffre qui est très important et qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est les émissions de CO2 par habitant, parce qu'on cite souvent l'Allemagne en exemple d'écologie par rapport à la France. Or, un Allemand, un citoyen allemand, émet dans l'atmosphère plus de 10 tonnes par an de CO2 et par habitant, alors qu'en France, nous sommes à 6 tonnes par an et par habitant, c'est-à-dire presque 50% de plus par habitant en Allemagne. Donc l'Allemagne n'est pas du tout un exemple en matière d'économie.
Non, mais alors, est-ce qu'ils sont en train de réussir leur conversion,
vous
Isabelle Bourgeois?
Je vais répondre là-dessus, justement, mais ça fait partie de la question. Justement, là, il ne faut pas mélanger les choses. Si les Allemands émettent 10 tonnes par an alors que les Français, près de la moitié seulement, cela est dû à la taille de l'industrie allemande, à la taille de l'économie allemande, qui pèse nettement plus. L'économie allemande pèse nettement plus que l'économie française, primo, et l'industrie allemande fait le double de l'économie de l'industrie française.
D'accord, donc, mais là, alors, est-ce déjà, que maintenant...
Donc ça relativise le chiffre, donc au total, la relation s'équilibre.
D'accord, hein, si alors maintenant, les Allemands, après avoir pris la décision d'arrêter avec le nucléaire, ont-ils lancé de vastes projets, est-ce qu'ils arrivent à produire l'électricité avec les éoliennes, les biocarburants, etc.
Ils ont lancé de vastes projets, mais ils sont très très limités. Les renouvelables représentent une dizaine de pourcents de l'approvisionnement énergétique en Allemagne, et les trois quarts de ces 10% sont imputables d'un côté à l'éolien et de l'autre à l'hydraulique. Le problème de l'Allemagne, c'est que l'hydraulique, par exemple, est sous-développée. En matière d'éolien, ils sont leaders mondiaux. Ça n'est pas un problème. Là, ils ont injecté énormément de subventions dedans. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui renchérit le coût de l'électricité, parce qu'il faut bien les financer. Il faut financer la recherche et les tests des énergies renouvelables. Le problème des éoliennes actuellement, et ce qui limite leur essor potentiel, hein, théorique, c'est en fait la réaction des écologistes et des protecteurs de l'environnement. Les éoliennes, c'est de la pollution auditive, c'est de la pollution visuelle, et de plus en plus, on refuse l'autorisation de création de sites, qu'il s'agisse de fermes éoliennes ou simplement d'une seule éolienne, au motif que cela gêne l'environnement. Pour les centrales hydrauliques, alors l'Allemagne a une topographie qui est moins favorable que la France, d'où le fait que la France a plus d'hydraulique, mais vous retrouvez dans les deux pays le même problème aussi. On pourrait très bien étendre cette technologie qui est connue, qui est fiable, qui est sûre, hein, bien qu'il y ait de risques d'inondation aussi, de rupture de barrage, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier. Mais alors, là, ce sont les écologistes aussi qui refusent l'installation de nouvelles centrales, tout simplement parce que cela détruit des biotopes.
Alors je voudrais entendre Isabelle Bourgeois, je voudrais entendre Greenpeace, Frédéric Marillet, pour savoir quelles sont, parce que l'énergie, on en a besoin, alors comment on la produit, cette énergie, selon vous?
Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, bon, je ne vais pas revenir sur tout. Comment on la produit? Alors, bon, là, c'est effectivement un des classiques du débat sur le nucléaire. Quand on parle nucléaire, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on parle que d'électricité, encore une fois, et en plus, seulement la moitié, puisque le nucléaire ne peut produire que l'électricité en base, c'est-à-dire de manière constante, et donc ne peut pas alimenter les pointes de consommation comme il y en a régulièrement. Donc, il faut savoir aussi que ces besoins en électricité, c'est un tiers de nos besoins. Donc, en gros, le nucléaire, si on voulait le développer totalement, ce pourrait répondre à la moitié du tiers de nos besoins, si je résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc on voit que c'est un enjeu, bien sûr, l'électricité, mais dès qu'on pose la question des changements climatiques et l'énergie, il faut avoir une vision beaucoup plus globale et pas seulement l'électricité.
Oui, mais alors où est-ce qu'on va pêcher notre énergie?
Faut penser...
Est-ce que la voiture électrique, c'est l'avenir? Les trains électriques, ils existent aujourd'hui.
Le deuxième biais extrêmement important, c'est que quand on parle de ce débat sur les changements climatiques et l'énergie, avant de se poser la question de savoir comment on produit cette électricité et cette énergie, il faut, et c'est primordial pour l'avenir, se poser la question de comment on maîtrise nos consommations. L'enjeu clé pour les décennies à venir, il est là. Il n'est pas de savoir si on fait une éolienne ou du nucléaire, même si c'est une question extrêmement importante sur laquelle nous on se battra, mais c'est de savoir si c'est raisonnable de consommer autant qu'on consomme aujourd'hui, si tous les gens de la planète pourront consommer comme un Français, et si c'est non, et la réponse elle est très claire, comment on fait très vite? Alors là, il y a plein de propositions que je peux vous faire juste après la pause.
Il faut qu'on marque une pause et on y revient, parce que même si on réduit notre consommation d'énergie, on va quand même en utiliser de l'énergie. Hein. Alors dans un instant.
Bourse, placement, banque, assurance, immobilier, retraite. Avec BFM et la BPE, Banque Privée Européenne, testez vos connaissances tous les samedis et gagnez 1000 euros en jouant au défi d'initié. Inscrivez-vous sur www.bpe.fr. Le défi d'initié avec la BPE, Banque Privée Européenne, c'est 1000 euros à gagner tous les samedis à 11h45 sur BFM.
Gaëtan Mulin, la bourse.
Et le CAC 40 en baisse de 1% à l'instant, 5534,98 à l'instar de l'ensemble des places financières européennes. Côté devise, la monnaie européenne a perdu un peu de terrain face au billet vert, $1,31,88. Et puis à noter, le Brent toujours très élevé, $61,04 le baril à l'instant. Parmi les hausses sur le SRDMI, on retrouve le titre Carrefour qui bénéficie aujourd'hui de rumeurs de rachat avec effet de levier. Le titre est en hausse de 3% à 49,92 €. Publicis, qui a dévoilé de très belles choses pour 2006, est en progression de 1,4%, 33,91 €. Maroc Télécom se reprend, plus 1,4%, 11,86 €. Business Object est en progression de 1,3%, 27,94 €. Soitec, plus 1,1%, 21,32 €. Capgemini, plus 0,7%, 53,35 €. Oberturcard System est en progression de 0,7% à 5,51 €. Et puis côté baisse, eh bien on retrouve le titre Altran Technologies qui a lancé un profit warning, moins 6,9%, 6,37 € à l'instant.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM.
Et tout de suite sur BFM, vous retrouvez Olivier Mazerolles et ses invités. Rediffusion du 17 janvier.
BFM, les grands débats du mercredi, Olivier Mazerolles.
Le nucléaire, danger ou solution écologique, avec Bruno Combi, qui est président de l'Association des écologistes pour le nucléaire, Isabelle Bourgeois, spécialiste de l'AMAN, et Frédéric Marillet, chargé du nucléaire à Greenpeace France. Il va falloir qu'on accélère parce que malheureusement c'est un sujet passionnant, mais tout de même, les économies d'énergie, tout le monde est d'accord, il faut en faire, il faut qu'on gaspille moins. Mais néanmoins, on aura besoin de ressources énergétiques.
Non, c'est très important parce que tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait. C'est bien là qu'est le problème. Parce que justement, on donne les priorités ailleurs. Moi, je vais vous donner...
Mais on achète nos ampoules qui consomment moins d'électricité.
Non, on peut le faire beaucoup mieux. Au niveau collectif,
le double vitrage.
Eh bien, c'est très important, effectivement. Plutôt que se poser la question si on fait un nouveau réacteur nucléaire, ce qu'il faut en France, c'est lancer, par exemple, un vaste programme de rénovation de l'habitat ancien. Il y a des normes qui sont aujourd'hui très bien, qui font qu'un bâtiment d'aujourd'hui, construit aujourd'hui, consomme 4 fois moins d'énergie qu'un bâtiment qui a été construit avant les années 70. C'est très important de remonter le niveau d'efficacité de tous ces bâtiments, puisque c'est la majorité du parc d'habitat. C'est extrêmement important. Ça pose la question des transports et de l'urbanisme. Aujourd'hui, un Californien, ça consomme 6 fois plus d'énergie qu'un Français. Déjà parce que sa voiture consomme 2 fois plus, mais surtout parce que l'urbanisation est beaucoup plus étalée.
Mais transport, regardez, là, à Paris où nous sommes, le tramway vient d'entrer en service, il mange de l'électricité.
Mais oui, mais c'est la consommation. Regardez, pour faire Paris-Marseille en train, vous consommez 2 fois et demi moins d'énergie qu'en voiture et 4 fois moins qu'en avion. C'est ça le principe.
Mais cette électricité, il faut bien qu'elle soit produite.
Mais c'est un facteur 2, vous en dites
comme
pas compte. Quand on parle de nucléaire, on parle de quelques pourcentages d'énergie. Quand je vous parle d'efficacité, je vous parle d'un facteur 2. Et c'est la priorité absolue. Si on ne réduit pas nos consommations et si on garde les tendances actuelles au niveau mondial, on pourra faire de l'éolien, on pourra faire des grands barrages, on pourra faire du nucléaire, ça ne suffira pas. Donc alors, il est très clair qu'il faut faire de l'efficacité. Ça passe par la sobriété, les gestes individuel, ça passe par des efforts collectifs et des politiques de maîtrise de l'énergie, ça passe par l'amélioration des technologies, les frigos qui consomment 2 fois moins, qui sont labellisés A, les voitures qui consomment moins, donc ça passe par tout ça, et si on fait tout ça, il y a des scénarios, notamment développés en France, qui prouvent qu'on peut diviser, parce que c'est l'enjeu par 4, nos émissions de gaz à effet de serre, sans avoir besoin du nucléaire.
Bruno Combi, alors, à l'inverse des questions que je posais à Frédéric Marillet, est-ce qu'il n'y a pas en France, du fait que les ingénieurs français ont bien réussi dans le nucléaire, est-ce qu'il n'y a pas une religion du nucléaire qui occulte tout le reste? Et d'ailleurs, on ne fait pas trop de recherches sur les énergies renouvelables et on ne se fatigue pas trop sur les économies d'énergie.
Non, l'énergie, ce n'est pas une religion du tout. Au contraire, les Français sont beaucoup plus économes en énergie que les Allemands ou que les Américains. Donc, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et que, comme le disait mon interlocuteur, eh bien, il faut faire encore plus parce qu'on peut aujourd'hui construire des maisons qui, effectivement, consomment 5 fois moins, voire 10 fois moins d'énergie. C'est la maison du futur. Moi, je construis en ce moment une maison propre. Il y a déjà un puits canadien. On peut faire les pompes à chaleur. On peut renforcer l'isolation. Toutes les techniques existent. Ça ne coûte pas tellement plus cher que des bâtiments standards. Donc, je suis affolé de voir que dans beaucoup de pavillons neufs aujourd'hui, on installe encore des chaudières à gaz. C'est pas normal, c'est un scandale. Et donc, on peut faire mieux. Pour la question des transports, eh bien, il faut développer les véhicules électriques et le ferroutage et les transports en commun. Et avec ça, je suis d'accord avec les propositions de Greenpeace. Simplement, ça ne suffira pas pour résoudre le problème. Il nous faut quand même une certaine quantité d'énergie. Et cette énergie, il faut la produire d'une manière propre. C'est pour ça que, dans notre association, nous sommes pour le nucléaire. Et je précise que je ne suis pas le seul, puisque nous avons plus de 8000 membres et signataires dans 56 pays, dont certains des grands fondateurs de l'écologie qui nous ont rejoints, comme James Lovelock, qui est le père de la théorie de Gaïa depuis les années 1960, ou même le fondateur de certaines très célèbres associations écologistes. dans les années 1970, qui ont également rejoint notre association. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau mouvement écologique aujourd'hui qui est favorable à la technologie pour justement diminuer nos consommations d'énergie, parce qu'on peut faire beaucoup, et c'est vrai, et c'est de la technologie. Et puis je crois que donc c'est important de faire la chasse au gaspille, comme dans les années 70, il faut relancer ça très fort, et que chacun, j'invite tous nos téléspectateurs à faire leur bilan de carbone, pour savoir combien chacun d'entre nous émet. Nous avons mis au point pour ça un petit logiciel qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur notre site web, pour savoir combien on émet de CO2.
Alors, attendez,
et pour apprendre ensuite à diminuer ces émissions.
Alors Isabelle Bourgeois, pour vous, ça sera la dernière intervention, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'en Allemagne, on est conscient de l'importance des économies d'énergie et de l'importance que peut représenter, pour l'économie d'ailleurs, les nouvelles sources d'énergie?
Non seulement on en est conscient, mais on le pratique. Et l'Allemagne a considérablement réduit sa consommation d'énergie, et dès avant même le premier choc pétrolier, je vous donne juste un tout petit chiffre, entre 1960 et la fin du siècle, la consommation dans l'industrie a baissé de 50%. Et c'est lié à une modernisation des structures de production, à une restructuration de l'industrie également. Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que la consommation baisse progressivement du fait de la mise en œuvre de nouvelles technologies. Et l'Allemagne figure parmi les leaders en matière d'éco-industrie. Elle a commencé très tôt à avoir des normes extrêmement strictes, notamment en termes d'émissions, de rejets dans l'atmosphère, et cela dès le premier choc pétrolier. Donc il faut aussi voir, pas uniquement les mesures individuelles, mais aussi les mesures au niveau de l'industrie, etc. Vous savez, indépendamment du Kyoto ou du Kyoto se monnaie, puisque les certificats d'émission sont payants. Mais indépendamment des thèses sur le changement climatique, les industries ont un intérêt propre à mener une politique de technologie propre, c'est tout simplement la performance, l'innovation, la compétitivité. Mmh. Et là, l'Allemagne est en tête dans les pays. Et je ne dirais pas que les Français sont plus économes. C'est plutôt l'industrie allemande qui est comparativement plus économe, puisqu'elle a commencé plus tôt.
Merci Isabelle Bourgeois. En quelques secondes, Frédéric Marié pour Greenpeace, est-ce que quand même vous êtes convaincu qu'avec les économies d'énergie, on n'aura pas besoin toujours de nucléaire pour produire l'électricité?
Non, mais tout à fait. Il y a des scénarios qui existent, qui sont crédibles, qui ne sont pas contestés. Il y a même plus. Les écologistes fournissent presque plus de scénarios que les tendances du nucléaire, parce que c'est pas dans leur intérêt. Moi, juste, je voudrais reprendre.
Vraiment,
vrai,
deux mots.
C'est un vrai problème en France. Il y a une loi qui a été votée en 2005. Priorité dans le texte aux efficacités, etc. La seule décision concrète, la seule politique concrète qui a été votée par cette loi, c'est un nouveau réacteur nucléaire. Rien n'a été proposé pour l'efficacité et les renouvelables. C'est un vrai scandale. Il faut changer ça rapidement.
Bruno Combi, en 20 secondes, est-ce que les partisans nucléaires ne sont pas en train de payer une certaine désinvolture, une culture du secret aussi qui a fait qu'on se méfie beaucoup?
Pas du tout. Au contraire, le monde entier envie en ce moment la position de la France avec son parc nucléaire. Et je crois qu'en conclusion, il faut dire que le nucléaire est une énergie propre, une énergie sûre et une énergie d'avenir. Il faut consommer moins, il faut consommer mieux, et le peu qu'on consomme, il faut consommer propre, et le nucléaire a une grande place à jouer à ce niveau.
Merci à tous les trois, Isabelle Bourgeois du Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine, Frédéric Marié de Greenpeace, France, et Bruno Combi, auteur de Nucléaire, avenir de l'écologie.
Les grands débats de BFM.